bonjour. Annick Delefosse au micro de Radio FM+, tous les vendredis à 11h. Retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le même jour, c'est-à-dire le vendredi à 20h, ainsi que le samedi à 12h, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille Maguelone Vidal pour sa création « L'amour des commencements », à voir du 13 au 29 novembre à la Bulle Bleue. Stéphanie Téléblanc d'Amour, chargée de la communication et des relations presse de la Bulle Bleue, l'accompagne. Bonjour.
Bonjour. Mesdemoiselles.
En seconde partie, Renaud Vici nous présentera la 8e édition de la ZAL, la Zone d'Autonomie Littéraire. Et c'est ce samedi 9 à la Halle Tropisme. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Maguelone Vidal.
Bonjour.
Alors, vous êtes musicienne, performeuse et conceptrice de spectacles. Vous développez un champ artistique singulier et vos créations sont toujours attendues avec impatience. Alors, voulez-vous nous présenter les grandes lignes de votre parcours professionnel, ainsi que vos influences et rencontres qui, du piano classique et des études de médecine, il y a quelques années, vous ont amené actuellement à une exploration poétique et sensorielle entre le corps et le son.
Waouh,
vous avez des choses à nous dire là, Maguelone.
La vie, quoi. En fait, c'est ça la question. Mais en fait, j'ai commencé, donc après les études de médecine, j'ai commencé le piano classique très jeune, très, très enfant. Et puis j'ai fait des études de médecine, effectivement, que j'ai menées jusqu'à leur terme. Et puis, pendant ces études, j'ai découvert le saxophone. Et moi, je rêvais de ça, de jouer du saxophone, je rêvais de souffler, en fait. Et donc, j'ai développé beaucoup le champ de l'improvisation. Libre, donc avec des gens comme Joël Léandre, comme Raymond Bonny, Pascal Comté. Et assez vite, j'ai eu le désir d'hybrider finalement ce geste musical avec les autres chats artistiques, que ce soit les arts plastiques, la danse, etc. Jusqu'à avoir envie de créer moi-même des pièces. Qui effectivement croise différents champs. Voilà.
Ouais. Mais alors, vous avez été influencé par des artistes. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'hybridation, on va dire?
En fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte. C'est parce que j'ai eu l'idée d'une performance qui s'appelle Le cœur du son, qui consiste à diffuser en temps réel des bruits de cœur de personnes volontaires, avec une partition qui évolue lorsque les performeurs font des mouvements. Donc c'est une pièce qui est vraiment entre la danse et la musique que j'ai créée en invitant Fabrice Ramalingam, le chorégraphe.
C'était en 2012.
Ouais. Et c'est avec cette pièce-là, qui était une sorte de nécessité, voilà, que je peux m'expliquer maintenant vu mon parcours, mais je me suis pas rendu compte tout de suite que j'allais aller dans cette direction-là.
Oui. Alors, du coup, toutes vos études de médecine, quelque part aussi, influencent votre travail. Parce que là, voilà, ce travail avec le cœur, la respiration, vous ne pensez pas qu'il y a quand même quelque chose
bien
qui
sûr.
A dû...
Hein? Bien sûr, mais j'ai mis du temps à voir ça, évidemment. C'est toujours compliqué d'avoir du recul sur sa propre pratique, évidemment. Mais effectivement, cette pièce-là, Le cœur du son, elle a fait le lien entre ces deux vies. À un moment, j'avais une vie de musicienne qui n'avait absolument rien à voir avec la vie que j'avais vue avant, donc d'étudiante en médecine et d'interne en médecine, etc. Et puis c'est vrai que les pièces sur effectivement la respiration, le cœur et je crois, tout ce vers quoi je vais maintenant a un rapport avec, effectivement, avec le corps, avec les relations sensorielles du corps et du son, et les relations sensorielles entre les chats artistiques, justement. Donc, effectivement, maintenant, je vois un lien dans ce parcours. Mais au départ, ce n'était pas du tout évident pour moi.
Et alors, au niveau son, quel est celui qui vous passionne et où vous fascine le plus? Parce que le son, ça peut être très large aussi. Quelle serait votre définition, par exemple, du son?
Alors, la définition du son, elle est physique. Hein, c'est la vibration de molécules.
C'est le médecin qui parle.
Mais c'est la fascination pour le son. Moi, je serais bien embêté de vous. Bon, j'adore le son du souffle et j'adore le son de la mer. Mais après, je viens d'écouter un concerto pour violoncelle de Haydn et je suis fasciné. Enfin, je veux dire, je suis intéressé par le son en général, passionné même. Ça peut être le bruit d'une machine dans la rue, ça peut être, je sais pas, la voix, évidemment, la voix des gens parler, la voix chanter. Enfin, quand on s'intéresse au son, c'est tellement immense que, je sais pas, les grillons, c'est immense. Enfin, c'est une possibilité d'émerveillement continuelle, quoi.
Et le son du souffle?
Ben oui. Mais le son du souffle, c'est super intéressant parce que c'est un son qu'on pourrait penser neutre, en fait, et qu'il n'est pas du tout. Et puis, le son du souffle, il est différent chez chaque personne. Donc, en fait, dans ce son-là, il y a déjà beaucoup de la personne. Ça dit beaucoup de la personne. Et puis, ce que je trouve très poétique, c'est que c'est juste avant de parler. C'est le son d'avant la langue, en fait. Et ça m'intéresse beaucoup, cette notion de musicalité qui est à l'origine, finalement, de la parole.
Alors, outre vos créations musicales, on peut citer quelques spectacles vivants et performances que nos auditeurs ont pu voir ces dernières années. Donc, on a cité le Cœur du Son en 2012, où vous donniez à entendre le son intérieur des corps, hein, c'est bien ça. Moi, je me souviens aussi de Boutès, celui qui saute, hein, pareil, c'était en 2012, un petit opéra contemporain. Aussi, l'air, hein, en 2016. Et là, voilà, avec une exploration du souffle à nu. Air vivant, 2016 aussi. Une partition sonore et chorégraphique à partir de la respiration. Alors, il faut absolument que vous nous parliez d'un spectacle que je veux absolument que nos auditeurs, que nous tous voyons à Montpellier. C'est votre fameux spectacle « La tentation des pieuvres ».
Oui, « La tentation des pieuvres », c'est une création hybride entre la cuisine et la musique. Donc, c'est une pièce pour un chef cuisinier, 4 musiciens et 100 convives. Donc en fait, les 100 convives, donc qui sont les 100 spectatrices et spectateurs, se placent sur le plateau, sur des tables en fait. Et sur le plateau, il y a une table de découpe qui est centrale, et puis de part et d'autre, des frigos, table de cuisson, évier, etc. Donc de quoi fabriquer un plat qui est une bourride de petites sèches. Et puis au début, donc, on va révéler le son de la cuisine au repos. Et puis le cuisinier entre sur scène, il pose sa première marmite, et puis donc le son va changer. Et va se développer la dramaturgie de la confection de ce plat, qui est une dramaturgie opératique, en fait, finalement, orchestrale en tout cas. Voilà, et lorsque le cuisinier a terminé la confection de son plat, il sonne sa cloche, et puis les musiciens se transforment en serveurs. Et ils vont effectivement offrir le plat aux 100 personnes qui sont là. On débouche quelques bouteilles aussi. Et, Et voilà, donc c'est là aussi très, très polysensoriel, et c'est une pièce assez joyeuse qu'on a beaucoup tournée, hein, déjà, pas dans la région, hein, malheureusement encore, mais j'espère bientôt. Et oui, c'est une pièce à laquelle je suis très attachée, d'abord parce que ça fait longtemps que je voulais la créer, parce que je suis née dans un restaurant, donc ce sont des choses, le son de la cuisine, je trouve ça magnifiquement musical. Et puis aussi, c'était important pour moi de poser la question de quoi on se nourrit. Et on se nourrit, oui, d'aliments et de cuisine, et on se nourrit aussi d'art, je crois. J'espère. Et on se nourrit beaucoup de l'autre aussi, de la relation à l'autre. Et c'est quand même une pièce qui met en présence des gens qui ne se connaissent pas, qui vont manger ensemble, donc partager un repas, vraiment partager ce plat avec tout ce que ça veut dire, hein, comme code, ça m'intéressait beaucoup de mettre en scène des gens qui mangent tous le même plat au même moment, ce qui est quand même assez rare, hein, maintenant, avec il y a toujours celui qui mange pas ceci, celle qui mange pas cela, etc., etc. Et là, ben voilà, c'est le même plat qu'on partage, qui est un plat très populaire aussi. Et ça me plaisait beaucoup, ça.
Bon, alors voilà, vous nous avez donné encore plus envie de le découvrir, et on espère vraiment que, voilà, il aura l'occasion de se jouer à Montpellier. Alors, on reste quand même dans le polysensoriel, et les bruitages, entre guillemets, avec votre nouvelle création, L'amour des commencements. C'est une espèce... d'abord, dites-nous, présentez-nous la genèse. Comment s'est faite votre rencontre avec la bulle bleue et s'est mise en place vous êtes artiste associé pour 3 ans. Comment ça s'est fait?
Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés avec l'équipe de la bulle bleue, c'était à l'occasion du festival Magdalena, le premier, en 2015, où Marion Coutarel avait invité mon solo, en fait, qui s'appelle Cochléa, une histoire du souffle à nos oreilles. Et en fait, on s'était rencontrés à cette occasion, et l'équipe de la bulle bleue m'avait proposé de faire un labo avec les comédiens. Donc ce labo, il a eu lieu 2 ans après. Donc on a partagé pendant 10 jours une expérience début de création, finalement, avec les comédiens à l'occasion de l'inauguration du Chez. Donc c'était en 2017. Et donc ça nous a donné envie, de part et d'autre, de prolonger l'expérience, finalement. Voilà, la genèse, elle est là.
D'accord. Alors vous, direct, oui, ça a été oui.
Ah ouais, vraiment, j'étais sortie de ce temps comme ça, qui était très, très concentré, mais sur un petit nuage. Ça m'avait absolument bouleversé et donné des ailes en quelque sorte, quoi. Donc voilà, bon, quand Delphine Morel et François Pontaillé m'ont proposé ça, j'ai pas tourné la langue cette fois dans ma bouche, hein, pour répondre.
Je vous cite une proposition rêvée au sens littéral.
Oui, c'est vrai.
Alors voilà, comme je disais, vous êtes artiste associé pour 3 ans. La bulle bleue a démarré ce travail d'artiste associé en 2012 avec le Théâtre de la Remise, donc 2012 à 2015. Ensuite, la Grande Mêlée de 2015 à 2018. Et voilà, la bulle bleue continue son chemin de recherche et de création avec cette année, enfin pour 3 ans, voilà, je le répète, vous, mais aussi Marie-La Machère, metteuse en scène. Donc voilà, on va pouvoir voir votre travail jusqu'en 2021. Alors, Stéphanie, est-ce que vous voulez nous présenter en quelques mots la fabrique artistique ainsi que la compagnie de la bulle bleue?
Alors, la bulle bleue, c'est une compagnie de théâtre professionnel qui a été créée à Montpellier en 2012 et qui réunit aujourd'hui 13 comédiens et 4 techniciens du spectacle, des jardiniers et des traiteurs. Et ce projet rassemble toute une équipe qui développe, qui tient le, qui s'occupe du lieu, du chai, de la fabrique artistique, salle de répétition, lieu de spectacle, jardin. Et nous travaillons du théâtre d'aujourd'hui, contemporain, de la création vivante, professionnelle, avec cette particularité. Tous nos travailleurs, tous les comédiens, tous les techniciens du spectacle sont en situation de handicap.
Oui, et c'est vrai qu'ils sont formidables. Moi, à chaque fois que je les vois, je crois que j'ai vu tous les spectacles, j'en ai la chair de poule, quoi. Ils sont vraiment super, ils se dépassent. Alors, on va en parler. Mais d'abord, Maglone, j'aimerais savoir quelles ont été les différentes étapes de travail.
Depuis le début de l'association.
Oui, pour l'amour des commencements. Oui.
Au départ, on a fait un labo avec tous les comédiens parce que ça me paraissait très important. Ça nous paraissait très important de travailler avec toute la troupe en débutant un compagnonnage comme ça. Donc, on a fait une première semaine de labo au mois de mars. Où j'ai vraiment voulu fédérer finalement la troupe autour de cette expérience-là. Je savais déjà que dans la pièce L'amour des commencements, il y aurait 8 comédiens, donc 4 femmes et 4 hommes. Mais je trouvais impossible de pas avoir une première expérience avec la troupe complète. Donc voilà, on a commencé comme ça. Puis ensuite, on a eu un temps en juillet. Donc la distribution à ce moment-là a été faite. Et on a commencé à travailler donc sur L'amour des commencements une semaine en juillet. Puis 2 semaines en septembre. Et ensuite en octobre. Et puis maintenant, voilà.
Comment ont-ils reçu vos propositions, sachant que voilà, ils ont eu à chaque fois des metteurs en scène assez différents qui leur proposaient un travail très différent, très aussi très théâtral. Et vous, là, quelque part, vous leur vous les emmenez vraiment vers d'autres chemins qui devaient complètement, j'imagine, ignorer ou quelqu'un.
Après, ce sont des grands comédiennes et grands comédiens, donc des artistes aussi polymorphes. Hein. Effectivement, c'est pour ça que ça s'appelle L'amour des commencements aussi. C'est parce que eux, c'est la première fois qu'ils travaillent avec une metteuse en scène qui vient de la musique. Et moi, c'est la première fois que j'écris exclusivement pour des comédiens. Donc tout ça est nouveau pour nous et nous amène à prendre des chemins de traverse et à expérimenter vraiment. Et moi, c'est vraiment ce qui me passionne, quoi. C'est qu'on devient plus, on s'élève en fait. Donc j'espère qu'on s'élève mutuellement, mais moi en tout cas, il m'élève beaucoup parce que je dois chercher, je dois trouver surtout. Et avec des personnes qui ne sont pas instrumentistes, etc. Et aussi, vont travailler par rapport au texte. Quand on est musicien, c'est pas toujours très simple le rapport aux mots. Quand on fait de la musique, c'est tellement, c'est tellement incroyable la musique que c'est pratique pour éviter les mots. Donc là, il y a un endroit à se coltiner pour moi qui est l'endroit du texte. Et puis, Et puis comment on invente? Et là, on invente vraiment. On peut pas jouer sur nos réflexes habituels. Donc c'est ça qui est à l'œuvre et c'est ça que je trouve magnifique, quoi.
Oui. Alors quand vous avez démarré, vous aviez un canevas déjà.
J'avais un canevas. des thématiques, une structure. Voilà. Ensuite, je l'ai laissé quand même assez ouverte parce que j'avais envie vraiment de pas fermer dès le début. Donc c'est vrai que en tout cas sur le premier labo où il y avait toute la troupe, beaucoup fait travailler des impros, etc., les amener à découvrir aussi leur propre rapport au son. Donc il y avait ça. Mais c'est vrai que c'est une écriture très très précise et ça me plaît beaucoup aussi cette écriture très Oui, très, très... Ouais, j'ai pas d'autres mots que précis. Pas beaucoup de mots, en fait. Je suis bavarde, mais j'ai pas beaucoup de mots.
Précise et très exigeante. Enfin, bon, moi, j'ai pu voir votre travail avec les comédiens à deux reprises. C'est vrai que, voilà, je pense que c'est obligé. Il y a une exigence qui est obligatoire. Et donc là, il s'agit d'une écriture, on va dire, polyphonique, hein, et résolument hybride. À la fois donc sonore, chorégraphique, textuel, musical, scénographique et lumineuse.
Oui,
c'est bon, exact.
Après, c'est toujours le cas du théâtre, hein, de toute façon. Mais effectivement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment les différentes pratiques artistiques sont en interrelation, mais structurelles. C'est vrai que la lumière dépend de la musique dépend de la lumière, la musique dépend du corps, enfin, tout ça et se construit ensemble. Et oui, je suis assez passionnée par ça, même si je pars toujours du son parce que c'est mon endroit. Si le récit, en quelque sorte, part d'ailleurs que du son, je sais pas faire. Moi, je suis musicienne. Mmh. Donc, je pars toujours de cet endroit-là. Et c'est aussi ce qui est très riche dans la collaboration avec l'équipe. Parce que chacun voit son angle. La scénographe, qui est Emmanuelle de Beuchère, elle voit cet endroit-là. Alors, parfois, forcément, on doit discuter, et j'aime vraiment ce débat forcé quand je dis forcé, qui est lié à ce type de pièce, quoi. Mais c'est absolument passionnant comment on va trouver le sens à chaque fois, qui est un sens commun. Et voilà, d'un coup je... Ouais.
Alors voilà, l'univers sonore est très très riche. On y découvre vraiment de multiples objets. On va pas dévoiler ce qui se passe, etc. Parce que faut vraiment venir. Mais moi j'ai vu des objets incroyables auxquels on ne s'attend pas du tout à avoir des sons avec ces objets-là. Mais il y a le corps aussi. Enfin bon, c'est vraiment un très très beau travail sonore. On peut parler de cœur aussi. Enfin, on va pas rentrer dans le détail parce que...
Mais c'est un travail sur le cœur et le collectif. C'est un travail sur le collectif, oui.
Il faut venir voir le spectacle. Juste deux mots parce que le temps passe très vite. Au niveau du texte, vous êtes inspiré de Pierre Tillman.
Je fais plus que m'inspirer. Effectivement deux textes de Pierre Tillman, qui est un poète et plasticien, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plusieurs années. Et effectivement, il y a deux textes de Pierre Tillman. Il y a un extrait de Tchekhov et d'autres textes aussi.
D'accord. Donc des souffles, des sons, mais aussi du texte. Alors Stéphanie, il nous reste une minute. Il va falloir faire très vite.
Je vais faire très vite, donc.
Voilà. Il y a plein de choses qui vont se passer autour de cette création, L'amour des commencements. Donc comme je disais, ça démarre le 13 jusqu'au 29. Et les vendredis, 15 et 22, ça va être des soirées spéciales.
Oui,
est-ce que vous voulez nous dire?
Le spectacle a lieu du 13 au 29, du mercredi au vendredi. Ça dure une heure dix. Et les vendredis soirs, il y a une proposition un peu différente. Après le spectacle, on peut assister à un dîner dans le noir organisé par le traiteur La Bulle Bleue. Donc c'est pour prolonger l'expérience du spectacle de Maglone Vidal. Et nous avons aussi une performance poésie avec Pierre Tillman le mercredi 20 novembre. Et sur la dernière soirée, Le Bal, qui est une création également de La Bulle Bleue avec Brigitte Négro.
Oui, alors ça, je vous le conseille, Le Bal, c'est fantastique, on adore, je l'ai vu deux fois, et franchement, c'est super. Écoutez, Stéphanie, un grand, grand merci. Moi, de toute façon, je vous invite à aller voir le site de La Bulle Bleue, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Excusez-moi, j'ai plus de voix. C'est donc labulle.fr, le site de Maglone, maglonevidal.net. La Bulle Bleue se situe 285 rue du Mas de Prunay, On peut y aller en bus, c'est le bus 7, 11 ou 15, arrêt les Bouises. C'est dans le quartier Montpellier Village, en allant vers la route de la Vérune. Enfin, voilà. Il y a un grand parking, et puis il y a le bar et la petite restauration assurée par l'équipe traiteur de la Bulle Bleue.
Les spectacles sont à 20h.
Et les spectacles, tous les spectacles sont à 20h, voilà. Mesdemoiselles, mesdames, un grand merci.
Merci beaucoup. Merci.
Et on se retrouve très vite pour la seconde partie avec Renaud Ricci pour la ZAL. Scénorama, votre émission culturelle hebdomadaire sur Radio FM+. Alors, pour cette seconde partie, eh bien oui, c'est Renaud qui est avec nous, Renaud Ricci. Renaud, vous êtes à l'initiative donc de l'événement La ZAL, Zone d'autonomie littéraire, et aussi quand même à la création de la revue en ligne Squeeze que vous avez créée. Donc j'imagine évidemment vous avez d'abord créé Squeeze et ensuite La ZAL, hein, ça fait partie, on va dire, je pense, dans la continuité. Est-ce que vous voulez bien nous présenter cette revue en ligne et gratuite?
Mais Squeeze, c'est une revue et donc effectivement qu'on peut télécharger sur internet dans différents formats de lecture numérique. Mobi, pub, PDF, on peut même imprimer en fait les PDF, qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui publie des textes courts d'auteurs, que des textes en fait d'auteurs, il n'y a pas d'interview ou d'analyse ou d'humeur, on fait un appel à texte. Et puis on a un numéro suite à cet appel à texte avec les textes qui sont sélectionnés par notre comité de lecture. On a un numéro qui sort tous les 3-4 mois.
D'accord, quand même.
Ouais, 3-4 numéros par an.
D'accord. Et comment vous faites, vous avez beaucoup de demandes, comment vous faites la sélection des auteurs et vous avez des styles en particulier que vous privilégiez?
On est ouvert à tous les styles littéraires tant qu'ils sont bons. Et le bon, c'est un critère évidemment subjectif,
et oui.
Qui est laissé à l'appréciation du comité de lecture, mais c'est le jeu. On est, je pense, relativement ouvert à différents styles. On peut publier de la nouvelle de SF, par exemple, de la poésie. On essaie de faire des sommaires un peu équilibrés qui jonglent justement entre différents styles littéraires. Et en ce qui concerne la sélection des textes, il n'y a pas vraiment de critères fixes. On reçoit, je crois qu'on publie à peu près 10% de ce qu'on reçoit, peut-être un texte sur 10 ou un peu moins. Il y a une première sélection que je fais moi, des réceptions du texte ou tous les textes qui sont hors sujet ou qui n'ont à mon sens à peu près aucune chance d'être sélectionnés par le comité de lecture sont écartés. Ça concerne une grosse moitié, voire les deux tiers des textes, oui, pour pas donner trop de travail aussi au comité de lecture. Et puis à franchement parler, on voit très vite si un texte correspondra, on va dire, à notre ligne éditoriale ou pas. Donc ça sert à rien d'y passer beaucoup de temps. Et puis sur les textes qui ont franchi cette première sélection, ils sont ensuite transmis donc aux 5 ou 6 membres, ça dépend des numéros du comité de lecture, qui après fait son feedback, débat, ses tripes, et on décide ensemble du sommaire, de la dizaine de textes qui sont publiés dans Squeeze.
D'accord. Vous avez une idée, ces auteurs, leur âge, par exemple, est-ce qu'ils, quand ils envoient leur texte, ils se présentent un peu? Vous arrivez à avoir un peu un panorama de ces auteurs qu'ils sont,
leur profil,
leur profil.
Comme on est sur Internet, ils viennent de partout en France et même en francophonie. Hein, on reçoit des textes d'Afrique, du Québec aussi, du Canada. Ou de Belgique, Suisse. Après, sur tout ce qu'on demande, en fait, il y a un formulaire hein, pour envoyer des textes. On fait des appels à textes thématiques. Là, en ce moment, l'appel à texte en cours, c'est Nos Limites, par exemple, le thème. Et sur le formulaire, on demande très peu d'infos. En général, c'est presque même plutôt rédhibitoire quand on reçoit un CV. On aime bien recevoir les textes, ne pas savoir qui est l'auteur et juger vraiment sur le texte plutôt qu'en fonction de ce qu'a éventuellement publié l'auteur, etc. Après, au niveau sociodémographique, je sais pas trop. Et au niveau, on va dire, profil d'auteur, là, on a vraiment, ça va du jeune auteur qui va publier son premier texte dans Squeeze à l'auteur, entre guillemets, expérimenté, voire pro, qui a déjà des publications dans différentes maisons d'édition et qui est en librairie. Voilà.
D'accord. Donc, avis aux amateurs. Hein,
c'est ouvert à tous, en tout cas.
C'est ouvert à tous. Alors, venons à votre événement, la ZAL. Donc, c'est la 8e édition. Bon, avec une petite pause l'année dernière.
C'est ça.
Besoin de réfléchir. Alors, il faut dire que jusqu'à présent, ça avait toujours eu lieu à la salle Pétrarque, hein, en cœur de ville. Mmh. Et donc là, la grande nouveauté, c'est l'altropisme. The place to be.
Depuis un an, oui, apparemment.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à faire une pause d'un an?
Ben, la ZAL, c'est un événement qui est quand même, enfin, dans l'identité de l'événement, on tient beaucoup à tenter des choses, à expérimenter, en fait, des interfaces entre la littérature et l'événementiel. Donc, on l'a fait cette fois à la salle Pétrarque. Qui offre en fait des possibilités assez limitées en termes de développement d'une manifestation. C'est pas une salle de spectacle au départ. C'est tenu par les services de la ville qui sont pas des techniciens
des contraintes
horaires du spectacle
aussi.
Oui, ouais, voilà, il y a quand même beaucoup
de matériel,
de contraintes. Donc c'est intéressant. Pour nous aussi, ben, pour retrouver, on va dire, de l'intérêt dans l'événement, de l'énergie dans l'événement, de tenter des choses. Donc là, de se confronter à un nouveau lieu, avec une nouvelle équipe, hein, qui est l'équipe aussi de Tropisme qui gère ce lieu. Et puis oui, de se relancer un peu sur une nouvelle formule, vu qu'on arrivait un peu à Pétrarque et dans notre partenariat, on va dire, avec la ville, à une sorte de cul-de-sac ou d'impasse, on n'arrivait plus à développer ou à faire évoluer l'événement. Puis à Pétrarque, bah, chaque année, on remplit la salle. Enfin, on pouvait guère faire mieux, en fait, entre guillemets, que ce qu'on arrivait donc à faire à Pétrarque. Pour notre genre d'événement, pour nous, si on n'évolue pas, si on est condamné encore entre guillemets à faire la même chose chaque année, juste avec une programmation et des têtes différentes sur scène, c'est pas intéressant pour nous. Ça veut dire qu'on recule.
Oui, oui, oui. Donc là, vous êtes dans une nouvelle dynamique, on va dire.
On relance, ouais,
avec aussi des horaires différents, du coup, de 18h à 1h du matin. Ça, c'est intéressant aussi. J'ai l'impression que ça va faire plus de moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y aura plus de monde. Parce que bon, parfois, le samedi après-midi, bah, on a des choses à faire. Là, 18h, 1h, c'est la soirée. On vient pour passer la soirée.
Ouais, on revient sur une formule plus noctambule. C'est ce qu'on faisait un peu avant la ZAL, d'ailleurs, où on proposait des événements à chaque sortie de la revue Squeeze, justement, puisque l'événementiel vient de là, dans des lieux différents, mais sur des formules, effectivement, plus le soir. C'est quand on s'est retrouvé, en fait, à Pétrarque, puisqu'il y a toujours la problématique de trouver des lieux, et des lieux avec un peu de cachet à Montpellier, ce qui n'est pas forcément facile pour les organisations. Ben Pétrarque, ça ferme à 23h, donc là on a été obligé de revenir sur une formule en journée.
Oui, oui. Bon, alors du coup, qu'est-ce que la ZAL ? Quels sont les principes, l'objectif, l'esprit ? Voilà, expliquez un peu à nos auditeurs cette fameuse zone d'autonomie littéraire.
Bah, très simplement, c'est un événement qui est positionné par rapport, on va dire, aux autres événements littéraires. Hein, c'est-à-dire qu'on essayait de voir tout ce qui nous plaisait pas ou tout ce à quoi on n'accrochait pas sur de l'événement traditionnel type comédie du livre. Pourquoi en fait nous ou moi qui aime la littérature, j'allais pas trop sur ces événements. Et on a essayé de trouver une formule peut-être un peu différente en mettant en scène un rapport plus direct avec le texte, c'est-à-dire pourquoi pas faire monter les auteurs sur scène et puis qu'ils nous lisent directement leur texte, un peu comme des musiciens quand dans le milieu de la musique tu vas voir un concert. Les gens sont sur scène, ils jouent leurs morceaux, puis après éventuellement ils vont mettre des signatures sur leur disque, mais il y a où ils peuvent parler de leur musique dans des interviews, mais on a quand même ce rapport direct en fait avec le contenu qu'on a assez peu finalement sur plein de manifestations littéraires. On a juste les auteurs qui dédicacent et puis beaucoup de conférences, de tables rondes qui peuvent être très intéressantes hein, par ailleurs sur le processus d'écriture, sur les thématiques abordées dans les livres, etc. Mais où finalement le contenu est relégué, peut-être parce qu'on considère que la lecture doit être un moment intime qu'on fait entre le livre et soi. Bon, nous on essaie de tenter peut-être une formule un peu différente, c'est-à-dire la lecture en cadre événementiel. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça peut avoir de l'impact sur les gens ? Est-ce que ça peut fonctionner ? C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Oui.
Ben moi je trouve ça super parce que vraiment voilà, c'est l'occasion de découvrir des auteurs et des textes et de façon, enfin on va aussi on va dire de façon avec des mises en scène, de façon performée. Enfin bon, je propose qu'on écoute un premier texte, Renaud, et puis vous nous présenterez l'auteur.
Ça marche.
Étripé un membre du Parti Socialiste, non pas les un entrepreneur capitaliste, lapidé un bataillon d'éditorialistes, annihilé un analyste économique, écartelé un chroniqueur radiophonique, trucidé quelques journalistes politiques, tuer un banquier, faire taire Laurent Ruquier, brûler quelques hypermarchés. Torturer un présentateur de la télé, émasculer le président de l'UMP, passer un bon coup de napalm sur Saint-Tropez, oxyre un flic, descendre un scientifique, buter un hipster ultra chic, écorcher un trader merdique, un gros bourgeois catastrophique, un groupe de hardcore mélodique, taper un prof, frire le chanteur Christophe, noyer un nouveau philosophe, fusionner Laurence Ferrari avec Bernard Henri Lévy, les mettre dans Sexy Sushi, les salsifis Bernard Kouchner, Jean-Louis Murat, le grand journal Libération, M. Pokora, Patrick Bruel, Alain Soral, David Guetta, crever d'assaut, bouffer Calogero, anéantir Jean-Pierre Pernaut, liquider Obispo, liquéfier Laurence Parisot. Défigurer Bernard.
Alors, John Harvey Marwani, je dirais plus qu'un écrivain, c'est un concept qui mélange en fait des ouvrages de développement personnel, de la musique offerte par la Marwani Corporation. Et John Harvey, c'est un auteur qui va venir nous expliquer sur la scène de la ZAL, nous donner plutôt un cours pratique sur comment réussir à faire de l'argent dans la littérature.
D'accord.
Parce que on reçoit certes des poètes contemporains, des auteurs de fiction, de littérature blanche, etc.
C'est quoi la littérature blanche ?
La littérature blanche, c'est le genre que nous on met pour désigner la littérature classique, celle qu'on étudie à l'école, celle qui remporte des prix. Alors bon. J'y colle l'étiquette littérature blanche, ce qui est peut-être un peu orienté, ce qui veut peut-être dire que finalement c'est peut-être aussi un genre littéraire comme un autre, comme la SF par exemple, ou comme le roman noir. Sauf que c'est, je dirais, le genre qui a donné naissance à tous les autres, puisque c'est de la littérature blanche que sont apparues les premières formes, les premiers livres, les premières histoires. C'est la première forme littéraire. Ouais, c'est une expression qui pour désigner quoi.
D'accord.
Voilà. Et sinon oui, voilà, pour en venir à John Harvey, ce sera donc un séminaire de développement personnel qui va aider tous les auteurs en herbe de la ZAL à convertir leur écriture en espèces sonnantes et trébuchantes.
Intéressant, intéressant. Alors donc, une scène en continu avec de nombreux auteurs. Il y en aura à peu près combien ?
Il y a 6 ou 7 interventions scéniques, donc une demi-douzaine. Dans ces interventions scéniques, il y a 2 fois une session de 1 heure qu'on appelle Free Electrofog, où à l'intérieur de ces sessions, il y aura encore, je sais plus, entre 5 et 10 performeurs qui vont intervenir, plus un temps de micro ouvert.
D'accord. On va écouter un deuxième extrait. Pareil, ensuite, vous nous présenterez qui est cet auteur.
Il n'y a plus que la pluie pour me plaire. Ce qu'il faut de huis clos et de ciel ouvert. Et mes voeux les plus vides. Et mes désirs les plus déserts. Il n'y a plus que la pluie pour me plaire. La pluie qui fait la fille dans la liqueur du centre-ville. La pluie qui fait la belle en pleine rue, dans la cyprine. La pluie qui nage à moitié nue dans le vignier du labyrinthe. Autour des lampadaires, dans la magie lugubre des halos. Dans le reflet des feux, dans la crinière de l'atmosphère. Il n'y a plus que la pluie pour me plaire. La crasse et la classe de certains passages luisants. Le style viril du flot et le jeu puissant du jusant. Et les abris moisis et les parages gorgés. Et les refuges rouillés et les endroits rongés. La bonne buée du bois brûlé et de la bière. Il n'y a plus que la pluie pour me plaire. Le plaisir des salariés à léser les actionnaires. Les ombres aux vipares, à l'ombre des remparts. La lisière des églises et le rebord des bars. Les phéromones ferroviaires qui flottent à travers. Les murs mal rasés et le marécage phosphorescent. Il n'y a plus que la pluie pour me plaire. Il n'y a plus que la pluie pour me plaire. Il n'y a plus que la pluie.
Alors, il n'y a plus que la pluie.
C'était Ethan Fraction, accompagné à la musique par Thomas Lelican. Ethan, c'est un poète qui est sur Toulouse, qui fait la façon dont je le vois moi, hein, de la poésie assez brute, urbaine et engagée, des très beaux textes qui touchent et puis qui sont dits aussi. Il y a une voix comme ça là, assez profonde. J'espère que ça va parler à des gens sur la scène de la ZAL. En tout cas, sur Facebook, ça fait déjà un petit peu de buzz, donc c'est plutôt
d'accord.
Bon signe.
Alors il y a un auteur là qui est assez attendu, Christophe Siebert.
Oui. Déjà, il est un petit peu connu à Montpellier parce qu'il a lui-même résidé à Montpellier. Il est venu de nombreuses fois, et pas qu'à la ZAL, hein, sur différents lieux. Donc il a son petit public fidèle qui le suit depuis longtemps. Et puis il a aussi une évolution où il monte un peu les étages comme ça de l'édition. Il doit sans doute suivre les recettes peut-être de John Harvey Marouani.
Et là, il va nous présenter son dernier livre, son dernier roman.
Lecture donc d'extrait de son dernier ouvrage, qui est paru aux éditions Au Diable Vauvert, qui s'appelle Métaphysique de la viande.
Ouais, tout un programme.
Pour lequel il a reçu le prix SAD à Paris, peut-être 2 semaines ou 3 semaines. C'est très récent. Donc ça donne une idée un peu du contenu de la lecture. On le passe en fin de soirée. Il faudra
23 heures.
Ranger vos enfants.
Ouais, voilà, rangez-les au placard. Oui, voilà. Parce que voilà, toute cette scène, c'est en continu. Voilà, les textes vont être dits sous différentes formes, en slam, en spoken word, enfin, hein, sous différentes...
Ouais, on essaie d'avoir une programmation qui balaie vraiment différents univers pour montrer aussi toute la variété que peut recouvrir le terme littérature, qui peut faire des fois un peu peur, mais... là, on a vraiment des intervenants qui peuvent être dans la poésie expérimentale, poésie contemporaine, slam, théâtre, chansons à texte, fiction. On essaie de montrer toute la richesse en fait qu'on peut retrouver dans les livres et dans les bibliothèques.
Oui, donc voilà, chacun l'interprétera à sa façon, de façon assez courte hein, quand même. C'est pas ça dure pas. Chaque auteur va pas parler pendant une heure. Hein.
Oui, c'est des interventions courtes, 20 minutes en général et en succession comme ça.
Voilà, mais c'est ça l'intérêt en fait de découvrir des auteurs. Puis c'est très ludique en même temps.
Oui, s'il y a quelque chose qui nous plaît pas. Hop, on va boire un coup au bar et puis on revient un petit peu après voir si c'est mieux.
Alors la ZAL, c'est aussi des stands avec la présence d'éditeurs et de libraires à découvrir.
Voilà, on a une implantation qui va du fanzine, revue. J'en profite aussi pour dire qu'on sort pour les 10 ans de la revue Squeeze une impression papier avec couverture sérigraphiée, donc des textes de Squeeze qui s'appelle Sacré Numéro et qui sortira donc pour l'événement.
Ah oui, alors là vous l'avez amené, il est magnifique. Ouais. Hein. La couverture est superbe. C'est d'ailleurs aussi la couverture de votre affiche, de votre fly pour annoncer cette ZAL. Et franchement, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est un visuel qui a été réalisé par Igor Hofbauer, qui est un illustrateur croate, il me semble, de Zagreb, et qui avait exposé à la Jetée. La Jetée Matsiris, qui aura également un stand sur la ZAL. Il y a aussi le collectif Carbone, qui va proposer un atelier gratuit de création de fanzines. Il y a la librairie Fière de Lettres, qui vient avec Au Diable Vauvert. Ils ont concocté une sélection spécialement pour la ZAL. Il y a le fanzine Violence, Dans la bouche d'une fille, Gorzine. Enfin voilà, il y aura tout un tas de productions et d'ouvrages à découvrir sur place.
Super, ça donne très très envie. Donc la ZAL, zone d'autonomie littéraire, samedi 9 novembre, ce samedi qui arrive, à la Halle Tropisme, de 18h à 1h, entrée libre, bar et gourmandise sur place, toutes les infos sur revuesqueeze.com. On termine en musique avec Linge Record, c'est ça, un morceau de...
Avec un extrait de Linge, un extrait du Free Electro Fog, donc qui est géré par le label Linge, avec deux artistes électro, un B3R et 93.5.
Renaud, un grand merci. Merci à Stéphane qui était à la technique. Merci à vous, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Bye bye.
Merci Annick, au revoir.